Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48FM, il est 9h34 et tout de suite les titres de l'actualité avec Thomas Radou.
Bonjour à toutes et à tous. La Saint-Patrick s'est déroulée hier, Antoine Ramey s'est rendu dans un bar liégeois qui fêtait l'événement. Le Rwanda coupe ses relations diplomatiques avec la Belgique. Dans ce journal, nous nous intéresserons à la situation. Dans notre page consacrée à l'extrême droite en Europe, nous recevons François Debras, professeur associé à l'Université de Liège. Mais tout d'abord, hier soir, de nouveaux coups de feu ont retenti devant la maison communale d'Anderlecht. Les pompiers ont dû intervenir aux alentours de 18h après qu'une personne a été blessée par balle. Les forces de l'ordre se sont rapidement rendues sur les lieux et un hélicoptère a survolé la zone. Dans la soirée, une autre personne a été blessée au couteau. On ignore pour l'instant si ces deux incidents sont liés. Toujours à Bruxelles, les négociations bruxelloises restent dans l'impasse. La réunion tant attendue d'hier n'a abouti à aucun accord. L'OPNVLD et le MR refusent d'exclure la NVA du gouvernement. Une coalition à 7 partis sans les nationalistes flamands était pressentie pour tenter de trouver une solution à la crise. Mais hier, cette option a été battue en brèche. Le président du MR, Georges-Louis Boucher, a appelé le PS à prendre la tête des négociations. Plus près de chez nous, c'était le jour de la fête à Liège hier. C'était le début de la Saint-Aurée, mais aussi le jour de la Saint-Patrick. Certains ont préféré se parer de verre plutôt que de leur toge. Et parmi eux, beaucoup ont passé la soirée au Shamrock Bar. Nathan Lacomble et Antoine Ramey ont passé une partie de la soirée avec eux.
Non, vous n'êtes pas à Dublin, mais bien au Shamrock Bar à Liège. En ce jour de début de Saint-Auré, plusieurs jeunes, mais aussi moins jeunes, ont fait un autre choix, célébrer la Saint-Patrick. Une fête qui trouve un bon public à Liège, selon le gérant du Shamrock.
Nous avons des jeunes, des moins jeunes, nous avons de toutes sortes qui se réunissent ici pour fêter cette Saint-Patrick, qui est un événement sympathique à faire entre potes, à faire entre amis. Donc oui, effectivement, il y a un réel public.
Kilt et costume de lèpre jaune pour les barmen, fût Guinness et évidemment musique celte. Tout était réuni pour fêter comme il se doit le saint patron de l'Irlande. Seamus est irlandais, il est venu jouer quelques morceaux au Shamrock.
Liège est un chouette endroit, ce pub est super, il y a toujours beaucoup de monde, des gens agréables, un des meilleurs endroits pour faire la fête.
De passage à Liège, Anthony se devait de fêter la Saint-Patrick.
Même si je suis britannique, c'est toujours le genre de fête que je célèbre. Ce n'est pas parce qu'on est britannique qu'on ne devrait pas célébrer d'autres cultures. Il faut le faire pour l'inclusion et la diversité.
Étant de rares bars irlandais de Liège, le Shamrock en a profité pour organiser 4 jours dédiés à la Saint-Patrick. La date officielle était l'occasion de terminer ces jours de fête en beauté, en vert et en Guinness.
On vous l'annonçait dans les titres, le Rwanda a rompu hier ses relations diplomatiques avec la Belgique. Et ce n'est pas une surprise, Quentin.
Non, ce n'est pas une surprise puisque les relations entre les deux pays se détériorent depuis maintenant plusieurs années. Les tensions entre le Rwanda et la Belgique ne datent pas d'hier. Il y a 2 ans, Bruxelles avait déjà refusé d'accréditer Vincent Karega, le nouvel ambassadeur du Rwanda, mandaté par Kigali. Il était soupçonné d'avoir joué un rôle trouble lors de ses précédentes missions en Afrique du Sud et en République démocratique du Congo. Alors ça, c'est une première chose.
Mais ce n'est pas le seul élément.
Non, le deuxième élément, c'est que l'Union européenne vient de publier la liste des personnalités visées par des sanctions européennes. Pressées notamment par la Belgique, un certain nombre de noms rwandais y ont été ajoutés. Dans la liste, on retrouve ainsi des hauts responsables militaires du M23, responsables de l'offensive sanglante dans l'est de la République démocratique du Congo. 3 hauts responsables militaires rwandais, ainsi que le chef exécutif de RMB, l'entreprise rwandaise des mines du pétrole et du gaz, sont également présents sur cette liste. Ces sanctions sont justifiées par le soutien actif du Rwanda à l'offensive du groupe rebelle M23. Groupe rebelle aidé dans ses attaques sur le territoire congolais par des soldats rwandais.
Et donc la Belgique apporte son soutien au pouvoir en place au Congo au détriment de ses relations diplomatiques avec le Rwanda.
Oui, mais la Belgique y trouve son compte. Elle pourrait retrouver une crédibilité internationale en faisant office de médiateur dans une bataille commerciale. Bob Kabamba, politologue spécialisé sur la gestion des conflits en Afrique.
Pour l'instant, le Congo est au centre des intérêts américains et au centre des intérêts chinois. On redoute d'ailleurs une prochaine guerre commerciale entre ces deux-là par rapport aux matières premières, donc aux matières premières qui sont indispensables dans la révolution énergétique donc du futur. Ces matières premières sont essentiellement situées au Congo. Or, la Belgique, en se positionnant comme partenaire du Congo, alors cela permet à la Belgique de pouvoir véritablement peser sur le plan international, puisque la Belgique a mais essaie de mettre en avant son expertise sur le Congo, qu'elle connaît mieux le Congo et peut jouer le tampon ou le go-between entre cette guerre qui est en train de se profiler entre la Chine et les États-Unis par rapport aux minerais.
Et à quoi peut-on s'attendre maintenant ?
Alors, pour les prochains jours et les prochaines semaines, cela devrait rester calme. On peut s'attendre à un statu quo. Néanmoins, toujours selon Bob Kabamba, les tensions entre le Rwanda et la Belgique pourraient s'apaiser si le plan belge concernant le Congo venait à ne pas aboutir. Cela reste évidemment de l'ordre de l'hypothèse. Par contre, là où ça va bouger, c'est au niveau des diplomates belges présents sur le territoire rwandais. Ils sont tenus de quitter Kigali dans les 48 heures. En réponse à cette décision, Maxime Prévost, ministre des Affaires étrangères, a pris des mesures de réciprocité en déclarant que les diplomates rwandais étaient persona non grata. Ils ont également reçu l'ordre de quitter le territoire belge dans les 48 heures.
Et hier soir, une nouvelle actualité concernant le M23 est tombée.
Le M23 a décidé de ne pas participer aux discussions de paix prévues aujourd'hui à Luanda. Dans un communiqué, le M23 accuse certaines institutions internationales de délibérément, et je cite, « saboter les efforts de paix ». Cela fait évidemment référence aux sanctions imposées lundi par l'Union européenne à l'encontre de certains membres du groupe armé. De son côté, Kinshasa a annoncé vouloir tout de même participer à ces discussions malgré le désistement du M23. Ces pourparlers devaient être les premiers entre Kinshasa et le M23 depuis que le mouvement a repris les armes en 2021 dans l'est de la République démocratique du Congo.
Merci Quentin. Autre conflit, l'armée israélienne mène depuis hier des frappes sur Gaza, des frappes sans précédent depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 19 janvier. Le dernier bilan fait état de plus de 330 morts. Selon le Premier ministre Netanyahou, ces frappes font suite au refus répété du Hamas de libérer les otages israéliens. Le Hamas, lui, accuse Netanyahou de se servir de la guerre comme d'une bouée de sauvetage face à ses problèmes politiques et d'avoir décidé de sacrifier les otages encore vivants à Gaza. Et place au sport avec vous, Nathan.
Oui, les Diables Rouges ont débuté leur premier rassemblement sous la direction du nouveau coach, Rudy Garcia. L'équipe nationale affrontera ce jeudi l'Ukraine dans le cadre de la Ligue des Nations. Pour ce match, Malik Fofana et Arthur Théat pourraient être contraints de déclarer forfait. Le sélectionneur a donc appelé Amin Aldakil et Michy Batshuayi en renfort. Et toujours en football, on connaît le calendrier des différents play-offs en première division. Ils commenceront le week-end du 29 mars. Avant le début de ce sprint final, c'est le Racing Genk qui est en tête de la compétition. Du sprint au marathon, il n'y a qu'un pas. Michael Sommers, le marathonien belge, a annoncé être forcé de mettre un terme à sa carrière. À la suite d'un examen cardiaque de routine, l'athlète de 30 ans a appris qu'il devait rester écarté du sport de haut niveau. Son marathon olympique de l'été dernier était donc son dernier.
Dans cette page spéciale consacrée à l'extrême droite, nous recevons François Debras, professeur associé au Centre d'études démocratie à l'Université de Liège. Bonjour François Debras.
Bonjour.
Alors on entend souvent parler de la dédiabolisation des partis d'extrême droite, comme le Rassemblement National en France, pardon. En quoi cela consiste-t-il ?
Alors, ce n'est pas du tout un phénomène homogène, mais derrière cette question de la dédiabolisation, il y a un double objectif, celui à la fois de contourner la législation contre le racisme et les discriminations, qui pourrait valoir à ces partis des amendes ou des peines d'emprisonnement. Et deuxième élément, on observe aussi depuis plusieurs années une évolution de ces partis politiques qui ne souhaitent plus se cantonner à une sphère d'opposition, mais qui souhaitent siéger au sein des exécutifs et donc prendre le pouvoir dans certains États, comme notamment en Italie et en Hongrie, mais c'est aussi le cas en France avec le Rassemblement National. Alors cette dédiabolisation, elle passe par une transformation des discours. On peut peut-être souligner trois évolutions dans les discours d'extrême droite depuis les années 90. Premier élément, toujours pour contourner cette législation contre le racisme, on va mettre de côté des termes comme la question des prétendues races pour favoriser d'autres termes qui peuvent paraître, entre guillemets, plus doux aux oreilles. Je pense notamment à la question de la culture ou de la religion. On ne va plus parler de hiérarchisation des races, mais on va plutôt parler de culture assimilable ou de culture inassimilable. Deuxième évolution, on ne va plus tant être dans la haine de l'autre, mais dans la protection de soi. Si on veut caricaturer un petit peu, celui qui attaque, c'est toujours le méchant, celui qui se défend, c'est toujours le gentil. L'extrême droite l'a très bien compris, et elle ne va plus être dans une haine de l'autre, mais plutôt va retourner la table pour se présenter comme la protectrice de la culture, de la coutume, des traditions, d'un savoir-faire. Alors je ne dis pas que ceux qui sont pour le latin à l'école sont d'extrême droite, mais l'extrême droite a très bien compris qu'en protégeant cet imaginaire, on pouvait se faire passer pour les gentils contre des invasions ou des ennemis qui seraient étrangers. Et alors, troisième évolution, on ne va plus être dans l'explicite, mais dans l'implicite. Je prends un exemple pour illustrer ce dernier point, c'est des discours de Jean-Marie Le Pen, qui au début des années 90 expliquait à la télévision qu'il croyait en la théorie raciale. Il y a une évolution, la législation se met en place. Et Jean-Marie Le Pen va avoir cette phrase, et je le cite, fin des années 90, « La culture marocaine est si belle que ça serait dommage de la mélanger avec la culture française. On est, parle de culture, on est dans l'amour, ou en tout cas on va connoter positivement, et on est vraiment dans l'implicite. Cette idée que, finalement, qu'est-ce que nous dit ce discours? C'est que chacun doit rester chez soi, qu'on ne mélange pas les cultures, qu'il n'y a pas de diversité, qu'il n'y a pas de multiculturalisme. »
Et ce discours politique d'extrême droite, est-ce qu'il arrive à investir les réseaux sociaux ?
Oui, donc l'extrême droite est très présente sur les réseaux sociaux et même peut-être plus largement, on pourrait dire, sur Internet. J'observe une triple domination. Tout d'abord, on a une domination historique. Rappelons-nous que l'un des premiers partis politiques européens à avoir un site Internet, c'est le Front National, aujourd'hui Rassemblement National. L'un des premiers partis politiques européens à avoir une page Facebook, c'est le Front National, également aujourd'hui le Rassemblement National. L'extrême droite a toujours historiquement investi ces nouveaux outils de communication, ces nouveaux espace pour pouvoir justement contourner les journalistes et contourner l'opposition et s'adresser directement à leur électorat. À côté de ça, à côté de cette domination historique, on a une domination quantitative. Rappelons-nous que les partis politiques investissent massivement sur les réseaux sociaux. Pour prendre un exemple belge, en 2023, pas 2024 puisque c'est une année particulière, on est en période électorale donc il y a des plafonds de dépenses, mais en 2023, le parti politique belge qui dépense le plus d'argent en communication sur les réseaux sociaux, c'est le Vlaams Belang. Pour donner les chiffres, on est à 1 680 000 euros dépensés en 2023 en publicité sur Meta. C'est un montant vertigineux par rapport au premier parti politique francophone, le PTB, on est à 173 000 euros. On est dans un ordre de grandeur de 1 sur 10. Donc évidemment, l'extrême droite se donne les moyens d'être présente sur les réseaux sociaux. Domination historique, domination quantitative, et alors dernier élément, on a aussi une domination qualitative. On peut être critique vis-à-vis des discours d'extrême droite, il faut aussi être critique vis-à-vis de nous. On observe que des discours courts, construits autour d'émotions fortes, maximisent en fait notre mémorisation, nous donnent envie de réagir, de partager, de commenter. Ça est mis en avant par les algorithmes, et l'extrême droite l'a très bien compris. Et l'extrême droite a très bien compris que ces émotions, ce n'était pas le bien-être, le bonheur. Qu'est-ce qui fait réagir? L'impuissance, l'injustice et la colère.
Et en Belgique, c'est une façon de contourner le cordon sanitaire médiatique ?
Oui, donc il y a deux outils qui existent en Belgique. On a le cordon sanitaire médiatique, c'est-à-dire que les journalistes ne tendent pas le micro en direct à un représentant, un mouvement ou un parti politique d'extrême droite. C'est uniquement valable pour les chaînes de radio et de télévision. Et à côté de ce cordon sanitaire médiatique, on a aussi, grâce au Conseil de déontologie journalistique, qui a mis en place une charte de la responsabilité sociale et démocratique, cette idée qu'on ne tend pas le micro en direct à l'extrême droite, mais en tout type de médias et en tout type de période, pas uniquement en période électorale. Donc on a ce contrôle déontologique de la part des journalistes pour préciser certains contenus et en quoi ils peuvent contrevenir, par exemple, par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme. L'extrême droite va contourner en fait ces outils en mobilisant d'autres canaux, en créant ces chaînes YouTube d'information ou selon elles de réinformation, des comptes TikTok, des réseaux très présents sur les réseaux sociaux pour encore une fois s'adresser directement à leur électorat et plus spécifiquement encore aux jeunes.
Merci beaucoup François Debras. On rappelle que vous êtes professeur associé au Centre d'études démocratie à l'Université de Liège. Vous êtes également créateur du podcast Popex sur 48FM. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée sur 48FM.